Nous allons ce matin faire une lecture principale dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7, et nous lisons ensemble. Nous allons lire le chapitre entier. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus, parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce ». Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamone. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers le demeure de la mort. On peut peut-être indiquer à notre sœur qu'il y a un espace là-haut, si jamais c'est plus facile pour elle, plutôt que de rester à l'extérieur. Un autre texte dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, les versets 19 à 20. Nous allons lire que ces deux versets-là. Deutéronome 30, versets 19 à 20. Où il est écrit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Le thème de la prédication de ce matin, c'est « Dieu nous enseigne le chemin de la vie ». Dieu nous enseigne le chemin de la vie. Si l'on veut se mettre à réfléchir correctement, on arrivera à se demander, sincèrement, qu'est-ce que des textes comme Proverbe 7 font dans la Bible ? Si on pense à l'expression simple de se dire que la Bible est la parole de Dieu, on se demandera qu'est-ce qu'un texte de cette nature-là fait, parce qu'on se dit que la parole de Dieu, elle sert à nous permettre de connaître Dieu, elle nous révèle Dieu. La création nous révèle Dieu, mais avec la création seule, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Avec la création, nous pouvons voir que Dieu existe, nous pouvons voir sa grandeur, mais avec la parole de Dieu, nous pouvons connaître Dieu. Nous pouvons entrer en relation avec Dieu. Et donc on se dit, mais cette parole, finalement, son but, c'est de nous faire connaître Dieu, c'est de nous révéler qui est Dieu, son plan, sa volonté, sa grandeur. Et donc on se demanderait, pourquoi est-ce que la Bible nous parle de sujets aussi sordides, aussi sales, d'une telle bassesse que Proverbe chapitre 7, qui nous raconte comment un jeune homme s'est fait séduire par une prostituée. On pourrait se demander pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a inspiré de tels textes aux écrivains de la Bible. On pourrait se demander, même plus globalement, qu'est-ce que le livre des Proverbes vient faire dans la Bible ? On peut comprendre la Genèse, la création, on peut comprendre les évangiles, mais qu'est-ce que les Proverbes viennent faire dans le texte qu'on appelle, le livre qu'on appelle la parole de Dieu ? D'ailleurs, si vous demandiez ou si vous parliez aux gens autour de vous qui ne connaissent pas la Bible, ils auraient du mal à croire que la Bible raconte un texte comme Proverbe chapitre 7, où on nous raconte comment une prostituée est sortie et qu'elle a parlé à un jeune homme. C'est dur à croire, tellement ça n'a pas l'air d'être très spirituel comme sujet. Et en réalité, c'est tout à fait normal, parce que la Bible n'est pas uniquement un livre qui nous révèle qui est Dieu. Elle nous révèle qui est Dieu, c'est sa première fonction, nous permettre de connaître Dieu au travers des Écritures. Mais la Bible est aussi un livre qui a pour but, ou en tout cas un livre dans lequel Dieu veut nous révéler ce qui est nécessaire pour notre vie. Par exemple, le mot « Torah », contrairement à ce que beaucoup de chrétiens pensent, n'est pas un mot qui signifie « loi ». Torah, ça ne veut pas dire « loi ». Torah, ça veut dire « enseignement ». Ça veut dire « mode d'emploi ». La Bible, c'est aussi un mode d'emploi sur comment nous pouvons vivre. En même temps qu'elle nous révèle qui est Dieu, en même temps, elle nous enseigne comment vivre. Et d'ailleurs, si on est familier avec la Bible, on va se rendre compte que la Bible parle de toutes sortes de sujets. Elle parle de l'amitié, elle parle des relations, elle parle du mariage, elle parle de l'argent, elle parle de la famille, elle parle du travail, elle parle de l'amour, elle parle de l'injustice, elle parle de la justice. La Bible parle de la politique, elle parle de la guerre, de l'hygiène, de la nourriture, du pouvoir, de la maladie, de la souffrance, de la peur, de la joie, de l'espoir, du repos, de la pauvreté. La Bible parle de la vie. Elle parle de la vie des hommes. Elle parle de notre existence. Ce n'est pas un livre purement spirituel qui nous parle seulement de Dieu, de ses attributs, de la prière, de la providence de Dieu, de la création. C'est un livre qui nous parle de la vie et qui nous enseigne comment Dieu veut que nous vivions. Dieu, au travers de la Bible, nous enseigne le chemin de la vie. Il veut nous enseigner le chemin de la vie. Le texte de Proverbes chapitre 7 est, on l'a vu clairement, une mise en garde contre les dangers de la femme prostituée, contre le danger de se laisser entraîner par une telle femme. Et l'auteur, en fait, explique, c'est bien sûr dans une explication imagée, il explique qu'il était à sa fenêtre et qu'il regardait et qu'il a vu un petit peu ce manège. Il nous raconte le contexte, il nous dit que c'était le soir au milieu de la nuit et de l'obscurité, premièrement. Le narrateur nous explique comment la femme a abordé le jeune homme, comment elle est venue vers lui. Il nous explique comment la femme se comportait. Il nous raconte les paroles mensongères et séductrices que la femme a prononcées pour séduire le jeune homme. Donc elle lui a dit « Mais t'en fais pas, mon mari est en voyage, il ne reviendra pas, tout va bien se passer. » Elle nous raconte aussi comment ce jeune homme s'est laissé entraîner. La Bible le compare à un bœuf qu'on mène à la boucherie. C'est marrant, ça, non? Vous n'avez pas beaucoup d'humour, hein, vous. La Bible compare ce jeune homme aussi à un oiseau qui se précipite dans un filet sans savoir que c'est au péril de sa vie. Donc Damien, comme Damien est là, je suis tout joyeux aujourd'hui. Le retour de Damien, c'est le jour de ma joie. Ah ben Damien, il sait bien que quand il va à la pêche et que le poisson mord l'hameçon, à la base, le poisson, il n'est pas au courant que c'est au péril de sa vie. Et il le sent peut-être, mais en tout cas, il ne le vivra concrètement qu'après, quand la respiration s'arrêtera dans son corps. C'est un jeune homme qui ne sait pas que les pas qu'il est en train de poser sont des pas qui vont le conduire à la mort. On peut d'abord prendre ce texte pour ce qu'il est, et on peut se dire que ce texte est effectivement une mise en garde contre les dangers, les tentations qu'on pourrait avoir avec le sexe opposé. On pourrait le prendre comme ça. Mais plus globalement, si on écoute ce texte, si on ouvre un petit peu ce texte, et si on laisse ce texte nous permettre de connaître Dieu, on va se rendre compte que c'est un texte qui nous aide à prendre conscience, une invitation à prendre garde au chemin de mort qu'il y a autour de nous. À prendre garde au chemin de mort qui se présente devant nous et à choisir les chemins de vie. Une invitation à choisir les chemins de vie. Parce que Dieu veut que nous vivions. Dieu veut la vie. Dieu veut que nous vivions. Il ne veut pas que nous mourions, ni au sens concret du terme, ni au sens plus symbolique. Il veut que nous vivions. Et Dieu veut nous éviter tous les chemins de mort qu'il y a autour de nous, tout ce qui peut nous détruire, tout ce qui peut nous faire mourir, tout ce qui peut faire mourir notre famille, nos existences. Il veut nous enseigner le chemin de la vie. Et il veut que nous vivions. C'est d'ailleurs ce que le texte dit dans Deutéronome que nous avons lu. « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Et Dieu ne dit pas « Ben voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort, fais ce que tu veux. » Ça m'importe peu. Il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour que tu vives. » Donc Dieu présente les deux chemins, mais il pousse « Choisis la vie. » Ne choisis pas la mort, ne choisis pas ce qui va te détruire, ne choisis pas ce qui va te faire du mal, choisis la vie. Le péché est entré dans le monde et en entrant dans le monde, il a aussi créé autour de nous plein de chemins de mort. Plein de chemins comme ça qui peuvent nous conduire vers la mort. D'abord, on sait que le péché a fait entrer la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. L'homme était dans la présence de Dieu, il était dans la présence du Dieu vivant, il a été chassé du lieu de la présence de Dieu. Il a été rejeté du jardin d'Éden. On sait que le péché a fait entrer dans le monde la mort physique. L'homme qui était appelé à vivre éternellement a vu sa vie être raccourcie et elle a un terme et il y a un jour où l'homme meurt et pendant toute sa vie, l'homme se rapproche seconde après seconde du moment de sa mort. Mais à côté de ça, il y a aussi dans notre vie tout un ensemble de chemins de mort autour de nous, c'est-à-dire de chemins qui peuvent nous conduire à faire mourir des aspects de notre vie. La mort, c'est ce qui nous détruit. C'est ce qui nous diminue. La mort, c'est ce qui éteint notre vitalité, ce qui abîme notre vie, ce qui abîme nos relations, ce qui abîme nos cœurs, ce qui ruine nos relations. La mort, c'est tout ce qui empêche que le plan de Dieu pour nos vies s'accomplisse. Le bon plan de Dieu pour nos vies s'accomplisse. La mort, c'est tout ce qui affaiblit notre santé physique, morale, spirituelle, émotionnelle. Et parmi tous ces chemins de mort, il y a celui qui est présenté dans Proverbes chapitre 7, mais il y en a plein d'autres. Et la preuve que se laisser entraîner par cette femme prostituée est un chemin de mort, eh bien, elle nous est donnée au verset 26 et 27 du chapitre, Proverbes 7, 26 et 27, où il nous est dit au sujet de cette femme, « Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. » Il ne le sait pas, hein, le bonhomme. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Alors on comprend tous que la prostituée, elle n'a pas tué tous les gens qui ont été chez elle. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Donc la mort ici, ce n'est pas mourir, que la vie s'arrête. C'est que ça a détruit des gens. Ça a détruit des familles. Ça a détruit des relations. Et verset 27, sa maison, la prostituée, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Ainsi, ce texte compare la maison de cette prostituée au chemin du séjour des morts, c'est-à-dire qu'aller dans sa maison, c'est se diriger vers la mort, c'est avancer vers le chemin de la mort, c'est avancer vers quelque chose qui nous détruit, qui va ruiner notre vie, qui va ruiner notre mariage, qui va ruiner nos relations. C'est avancer vers ce qui va détruire notre vie. Et si ce texte se trouve dans la Bible, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous ayons à marcher dans des chemins qui vont ruiner notre vie. Et c'est parce qu'il veut que nous allions dans des chemins de vie. On n'a pas de mal, si on s'arrête quelques secondes, à imaginer les conséquences pour ce bonhomme, ce monsieur, en allant chez cette dame. On peut imaginer que son mariage va être détruit avec cet homme. Pour lui, hein, il partirait avec cette femme, son mariage pourrait être détruit. Peut-être qu'il était très heureux avec sa femme, qu'ils avaient des projets, que beaucoup de bonnes choses. Mais tout ça peut être détruit par un moment comme celui-là. On peut imaginer, dans un contexte peut-être plus proche de nous, alors on peut imaginer qu'il puisse être victime d'une maladie sexuellement transmissible. Ça existait déjà, hein. Pas parce qu'aujourd'hui on donne des noms, ça n'existait pas avant. On peut imaginer le danger pour son intégrité physique si le mari de cette femme revient. Parce que s'il écourte son voyage et que finalement il revient. On peut imaginer sa souffrance intérieure à la fin de ce moment. On peut imaginer la honte, la tristesse, après avoir été chez elle. Parce que le péché, il nous détruit, mais il nous ment aussi. Le péché, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous détruit, c'est aussi quelque chose qui nous ment. Qui nous vend. Le péché nous vend du rêve. Il nous dit que tout va bien se passer. Il nous dit que tout va bien se terminer. Il nous dit qu'il n'y aura pas de problème. Et à la fin, c'est la cata. Le péché, c'est une sucette attirante au regard, mais qui produit la mort. Quand on la voit, quand on le voit extérieurement, on se dit, mais ce n'est que cool, ce n'est que bien. Et c'est seulement quand on a terminé la sucette qu'on se rend compte qu'en fait, c'était... Dieu lui a promis une belle vie, une grande vie, une longue vie, entourée de ses innombrables petits-enfants, arrière-petits-enfants. Mais si Olivier s'amuse à rouler à 240 km/h sur l'autoroute, imaginons qu'il fasse ça. Nous pouvons raccourcir les jours que Dieu nous a donnés. Au travers de tous les excès, au travers de l'alcool, au travers de la sexualité débridée, au travers des jeux d'argent, au travers de la conduite dangereuse, au travers de la délinquance, au travers de la manque de sagesse dans la façon de vivre, notre santé, nous pouvons raccourcir notre vie. Nous pouvons précipiter notre mort. Dieu est le Dieu de la vie et il veut que nous vivions. C'est une des réalités les plus fortes de toute la Bible. C'est que Dieu, qui est la vie, veut que nous vivions. Il veut que l'homme vive. La Bible dit que c'est en lui que se trouve la source de la vie. Il est la source de toute vie sur cette terre et il veut que nous vivions. Et Dieu explique à son peuple qu'il y a bien une voie de la vie, avec la bénédiction, et il y a une voie de la mort, avec la malédiction. Et d'ailleurs, cet aspect de Dieu qui veut que nous vivions, c'est ce qui fonde même notre cœur d'évangélisation. Pourquoi est-ce que nous évangélisons ? Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Parce que Dieu veut la vie. Parce que Dieu veut que tous les hommes échappent à la mort éternelle. Il veut la vie. Il nous pousse à la vie. Et c'est une des réalités les plus fortes, une réalité plus forte aussi, forte pour nos vies. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se repente et qu'il vive. Dieu ne veut pas notre mort, il ne veut pas la mort de notre famille, il ne veut pas la mort de nos relations, il ne veut pas la mort de notre Église, il veut que nous vivions. Premièrement, parce que Dieu veut la vie, il nous a donné Jésus. Parce que Dieu veut que nous vivions, il nous a donné Jésus. Et Jésus dit, « Car comme le Père ressuscite des morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Le texte dit aussi, « Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Dieu a donné la vie à son Fils. Et il a décrété que toute personne qui s'unirait à son Fils recevrait la vie éternelle. Parce que Dieu veut la vie, il nous a donné Jésus. Jésus qui est cette puissance vivificatrice. Jésus par qui la vie peut passer. Par Jésus, tout le monde peut recevoir la vie éternelle. Et très souvent, dans la Bible, quand on dit la vie, on parle de la vie éternelle. En Jésus, nous pouvons avoir la vie éternelle. Tout comme la mort, nous dit la Bible, est entrée par un seul homme, la vie est entrée par Jésus-Christ. Au travers de Jésus, la vie est possible. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus, c'est le chemin de la vie, c'est le contact de la vie éternelle. Mais parce que Dieu veut la vie, il nous enseigne aussi dans sa parole à éviter tous les chemins de mort. La Bible nous donne des conseils sur la manière de marcher pour éviter les chemins de mort, pour éviter ce qui détruit nos familles, ce qui détruit notre réussite, ce qui détruit nos finances. Et d'ailleurs, le texte de Proverbes chapitre 7, il nous est présenté comme un père qui écrit à son fils. C'est un père qui écrit à son fils et il lui donne des conseils cœur à cœur. On sent la force du texte au début. « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. » Il y a une vraie force dans ces paroles. On voit que c'est un père qui se soucie de son fils et qui veut éviter à son fils les pires choses. Et il lui donne donc des conseils précieux. Et derrière ce Père, en fait, c'est Dieu qui s'adresse à nous. « Mon fils, écoute ma parole. Mon fils, écoute ce que j'ai à te dire, parce que tu vivras. » Ainsi, dans la parole de Dieu, nous recevons Jésus qui nous communique la vie éternelle, mais aussi nous recevons les conseils, les principes qui peuvent nous permettre de vivre une vraie vie. Une vie telle que Dieu l'a prévue. Une vie bénie. Qui n'est pas une vie sans problème, mais qui est une vie touchée par la faveur de Dieu. Dieu veut nous éviter le chemin de la paresse, dans les proverbes notamment, qui nous mène à la pauvreté et à l'improductivité. Dieu veut nous éviter le chemin du mensonge, qui nous mène à l'égarement. Dieu veut nous éviter le chemin de la méchanceté, qui nous mène à la souffrance des cœurs. Dieu veut nous éviter le chemin de la médisance qui détruit les relations entre les personnes. Dieu veut nous éviter le chemin de la corruption qui mène à l'injustice. Dieu veut nous éviter le chemin de la négligence qui mène à l'échec. Dieu veut nous éviter le chemin de l'orgueil qui mène à la chute. Dieu veut nous éviter le chemin de la haine qui mène aux guerres, qui mène à la destruction des nations. Dieu veut nous éviter le chemin du désordre qui mène à des désastres affectifs, amoureux, sexuels. Nous avons vu il y a quelque temps ces deux dames qui ont été tuées par un autre monsieur et qui s'est suicidé par la suite. Ça, c'est la vraie mort. Ça, c'est vraiment mourir. Des vies gâchées. Des vies gâchées. Pourquoi, finalement ? Pour rien. Mais nous pouvons parfois poser des actes, avoir des styles de vie qui mènent à des situations telles que celle-là. Dieu veut nous éviter le chemin de la cupidité qui mène à la ruine de tous les efforts. Cette semaine-ci, révélation d'un comptable qui a volé près d'un million d'euros à l'intercommunale de gestion immobilière liégeoise. Un million d'euros. Pour rembourser des dettes de jeu. Voilà un chemin de mort. Voilà comment des vies sont détruites. Parce qu'on s'est engagé dans un chemin de mort par un chemin qui détruit notre vie. En 2016, un comptable qui avait dérobé 2 millions d'euros d'argent public à la région wallonne. Qu'est-ce que je ferais avec 2 millions ? Enfin, soit. Bon. 2 millions d'euros. Et soyons clairs, ce sont des hommes pêcheurs comme nous. On n'est pas mieux qu'eux. On est, déjà, il n'y a pas de comptable ici, que je sache. Donc, évidemment... Mais l'idée, ce n'est pas de les juger, ce n'est pas de les condamner, mais c'est de montrer qu'effectivement, quand Dieu nous dit « attention à l'amour de l'argent », il sait pourquoi il nous le dit. Quand Dieu nous dit de marcher avec intégrité, il sait pourquoi il nous le dit. Quand Dieu nous dit d'être fidèle à notre conjoint, il sait pourquoi il nous le dit. Parce qu'en nous éloignant de ces choses, nous entrons dans des chemins de mort. Et nous pourrions multiplier les exemples de tous ces chemins qui mènent à la mort. La Bible nous montre qu'un chrétien affermi, un chrétien qui connaît Dieu, un chrétien qui grandit dans sa connaissance de Dieu, il grandit aussi dans son intelligence divine de la vie pratique. Beaucoup de chrétiens sont des spécialistes de tous les sujets spirituels possibles. Ils connaissent tout. Ils sont spécialistes de la prière, ils sont spécialistes de la Bible. Ils sont spécialistes de la justification par la foi, l'inspiration verbale des Écritures, la péricorèse, ils savent tout. Mais ils sont perdus lorsqu'il s'agit des sujets concrets de la vie. Parce que Dieu a aussi une volonté pour le concret de nos vies. Un chrétien qui grandit dans sa connaissance avec Dieu va aussi grandir dans son intelligence divine. On avait vu en 2016, vous avez oublié, puisque voilà, mais... On avait vu les sept processus synergiques. Et on avait dit que lorsque nous arrivons et que nous rencontrons Jésus, eh bien Dieu va nous transformer petit à petit. Il va renouveler notre intelligence, il va changer notre cœur, il va transformer notre caractère. Ça veut donc dire que Dieu va faire un travail en nous pour que nous puissions devenir des gens qui ne sont pas seulement des grands spirituels, mais qui sont des gens qui vivent bien, qui vivent une vraie vie. Il veut nous conduire dans le concret de notre vie. Le chrétien qui grandit dans sa connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, il va aussi grandir dans sa façon de vivre, le concret, parce que c'est dans la vraie vie que la vie chrétienne se manifeste. Le chrétien va grandir dans sa façon de parler quand il a quelque chose de difficile à dire. Il va grandir dans sa capacité à gérer des conflits, à régler des conflits. Il va grandir dans sa façon de se comporter avec ses collègues, à son travail. Il va devenir sage pour choisir un conjoint, pour vivre des fréquentations, pour vivre sa sexualité, pour vivre les relations avec sa belle-famille. Le chrétien va devenir sage sur comment réagir par rapport à ce qui se passe dans le monde, les guerres, les crises. Il va grandir dans la connaissance de Dieu, il va aussi grandir dans sa façon de gérer son argent, dans sa façon de vivre ses loisirs, les jeux, le sport, les voyages. Il va grandir dans son hygiène de vie. Tout ça, il va grandir. On connaît des gens, c'est une bouteille de coca par jour. Dès le matin, une bouteille de coca. Tous les jours. Quelle hygiène de vie! Mais le chrétien qui connaît Dieu, il va aussi devenir attentif à tout ça. Parce qu'il sait que son corps est le temple du Saint-Esprit, parce qu'il sait qu'il est appelé à faire attention à son corps, parce qu'il sait qu'il est conscient de tout ça. Il va devenir sage dans sa façon de gérer ses loisirs, de gérer ses jeux. Cette semaine encore, un jeune garçon de 18 ans qui vivait chez lui tout seul et qui est décédé d'une crise d'épilepsie après avoir vécu une addiction aux jeux vidéo. Sa maman dit qu'il jouait entre 17 et 18 heures par jour. Mais on ne se moque pas de lui, vous savez, on ne le critique pas, on ne le juge pas. Mais au contraire, on se dit, mais soyons attentifs, faisons attention. 17 heures à 18 heures par jour. Le chrétien va être enseigné par Dieu à vivre une vie équilibrée. L'équilibre dans les finances, l'équilibre dans la façon de se nourrir, l'équilibre en toutes choses, vivre de façon équilibrée. C'est la Bible qui dit dans Tite 2, verset 6, « Dis aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. » C'est fou quand même que la Bible sache ça. « Dis aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. » Pourquoi devons-nous écouter Dieu lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous donne des conseils dans la Bible? Pourquoi est-ce qu'il faut l'écouter? Premièrement, parce qu'il est le Créateur. Et parce que c'est lui qui a fait toutes choses, il a créé le monde physique, il a créé le monde matériel, il a créé toutes choses. Il sait donc ce qui est bon pour nous. Il connaît les principes qu'il a installés dans l'univers. Dieu a mis des principes dans l'univers. Il a mis des principes physiques, la gravité par exemple. On sait tous que les objets sont attirés vers le centre de la Terre. C'est un principe physique. Mais Dieu a aussi mis des principes spirituels dans le monde. Et dans sa parole, nous apprenons à les connaître. Derrière chaque commandement de Dieu, il y a un principe spirituel que nous devons apprendre. Et ce principe est valable que nous le sachions ou pas.
D'accord ?
Que nous sachions que le principe existe ou pas, ça ne change rien, c'est un principe. La gravité, par exemple, que vous sachiez que ça existe ou pas, elle existe. Par exemple, le feu brûle. Mais le feu brûle pour tout le monde, même pour ceux qui ne savent pas que le feu brûle. Donc si vous n'êtes pas au courant que le feu brûle, le feu ne va pas dire « Ah, ben toi, tu ne le savais pas, donc je ne vais pas te brûler. » Non, le feu brûle. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a des principes que nous devons apprendre à connaître. D'où l'importance de la parole de Dieu, d'où l'importance de l'enseignement, pour que nous apprenions à connaître les principes de Dieu. Et que nous apprenions à connaître les principes de Dieu, même quand ils ne nous arrangent pas. Même quand ils ne nous arrangent pas. Les rabbins expliquent sur un verset de livre d'Exode intéressant, ils expliquent que les Israélites ont répondu, donc Dieu donne ses commandements à ses enfants, et ils vont répondre une expression qui n'est pas transcrite en français, qui ne paraît pas en français, mais ils vont dire, oui, nous allons faire tout ce que l'Éternel nous a dit, et ils vont dire, nous ferons et nous comprendrons. Donc, nous allons faire et nous comprendrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va d'abord faire ce que Dieu nous a dit, et on comprendra après. Et nous, les chrétiens, nous sommes tellement rationnels que nous voulons toujours que Dieu nous explique tout. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mentir? Moi, j'aime bien mentir. Voilà, Dieu a dit qu'il ne faut pas mentir, ben, il ne faut pas mentir. Il est notre Créateur, il sait ce qui est bon pour nous. Et nous ne serons jamais déçus d'avoir fait ce qu'il nous a dit. Les personnes qui ont été fidèles à leur conjoint, ils ne regrettent pas. Il n'y a personne sur son lit de mort qui dit, on lui dit, ah, quel est ton plus grand regret? J'aurais dû être infidèle. Non, c'est le contraire. J'aurais dû être fidèle, qu'on dit, sur son lit de mort. on ne regrette jamais d'avoir fait ce que Dieu dit. Jamais. Deuxièmement, pourquoi faut-il écouter ? Parce que Dieu nous aime. Il nous aime plus que nous nous aimons. Il nous aime plus que nos conjoints ou nos familles, nos parents nous aiment. Il nous aime au-delà. Contrairement au diable qui nous fait toujours croire qu'il nous aime. Et après, le diable, c'est un lâcheur. Donc c'est toujours « vas-y et je te rejoins après ». Et après, quand c'est la cata, c'est un conseiller qui ne paye jamais. Voilà. On aime bien que les conseillers payent, mais lui, enfin, il paye, mais pas bien. Par des choses qui nous détruisent. Troisièmement, pourquoi devons-nous écouter Dieu ? Parce qu'il a un plan pour nos vies, il a un plan pour le monde. Et que pour que ce plan puisse se réaliser, il faut que nous puissions marcher dans ses voies. Oui, Dieu nous enseigne le chemin de la vie. Dieu veut que nous vivions. Soyons donc des chrétiens qui grandissent aussi dans la sagesse de la vie de tous les jours, parce que Dieu nous enseigne comment vivre dans sa parole. Pour terminer, nous allons lire ensemble le psaume 19, versets 7 à 11. Le psaume 19, versets 7 à 11, où il est dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. La loi de l'Éternel est parfaite, elle a le pouvoir de restaurer notre âme. Lorsque nous recevons et que nous mettons en pratique la parole de Dieu, cette parole restaure notre être intérieur. » Verset 8, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites. » Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ce que Dieu dit, c'est pur, c'est sans mélange, c'est sans défaut. Et ces commandements, ils éclairent notre vie pour que nous puissions voir clair et savoir par où marcher. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Verset 10, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Verset 11, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. L'enfant de Dieu prendra toujours conscience de la beauté des commandements de Dieu. Ses commandements vont l'instruire, le faire grandir. Et il bénira toujours Dieu pour sa parole, pour ses commandements. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.